Le dévoilement de Dieu numéro 30. Si seulement, ils avaient connu la parole. Le 20 juin 2018. Brian Kozurek, pasteur. Marc 4.1 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Deux, il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Et il leur dit dans son enseignement ou dans sa doctrine, 3 écoutez. Un semeur sortit pour semer. 4 comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. 5 une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle n'y trouva pas un sol profond. 6. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. 7. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent, et les touffèrent, et elle n'y donna point de fruit. 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30. 60. Et 100 pour un. 9 Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre entende. 10 Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. 11 Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles. 12 Afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant ils entendent et n'y comprennent point, de peur qu'une Néhémie se convertisse, et que les péchés Néhémie leur soient pardonnés. 13 Il leur dit encore, vous Néhémie comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? 14 Le semeur sème la parole. 15 Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. 16 Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux, quand ils entendent la parole. Ils la reçoivent d'abord avec joie, 17 mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. 18 D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole. 19 Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole, et la rendent infructueuse. 20 D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, 30, 60, et 100 pour un. Inclinant la tête dans la prière, bienveillant et tendre Père, nous venons à toi avec action de grâce ce soir sachant que tu es ici parmi nous, car nous croyons que tu es descendu avec un message, et ce message est la vie pour nous. Nous te remercions Père, de nous avoir donné la promesse de la vie éternelle à travers ton Fils Jésus, et d'avoir rendu possible cette promesse au moyen de ta parole. Car nous croyons que ta parole est une semence, en tant que semence, elle contient la vie, ta semence, ta vie. Et nous savons que chaque semence doit se reproduire selon son espèce, car c'est la loi de la reproduction. Et nous savons qu'en le Christ, qui est notre vie paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Et nous savons que cette gloire dans laquelle nous devons paraître nous manifester publiquement, c'est ta doxa, qui est ton opinion, ton jugement et ton évaluation, qui est ta pensée qui vient à tes enfants. Nous sommes donc des gens reconnaissants pour tout ce que tu fais ici dans cette petite congrégation et pour tout ce que tu fais à travers ce ministère par le monde. Et donc, Père, nous nous consacrons à ton grand dessein et à ton grand plan que tu nous as fait connaître. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans le naturel, La vie qui Esther dans la semence. Une fois qu'elle Esther plantée que la lumière la frappe. La vie dans la semence commence son voyage vers la manifestation d'elle-même. En d'autres termes, vers une expression de ce qu'Esther la vie et la nature intrinsèque de cette semence. Maintenant, nous savons qu'avant que la lumière Néhémie frappe la semence Néhémie manifestera pas la nature innée de la vie qui s'y trouve. Il faut donc que la lumière manifeste la vie. En fait, l'apôtre Paul a dit, au chapitre 5 des Éphésiens, tout ce qui Esther manifestait l'Esther par la lumière, et nous savons que Christ Esther la lumière du monde, et Jean 3.3 nous dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même Esther pur. 4 Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché Esther la transgression de la loi. 5 Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Maintenant, reprenons au paragraphe 115 du sermon de frère Branham Dieu dévoilé, je veux que vous suiviez sa pensée ici. La manière dont il montre que la vie Esther dans la parole et la manière dont les gens ont toujours échoué à voir cette vie dans la parole alors qu'il continuait à la révéler et à la manifester. 115 Vous vous souvenez? Ensuite il est intervenu à Paul, après, et à Pierre, en prison, sous la forme de la colonne de feu. Vous vous en souvenez? L'assemblée dit, Amen. Tirez des accents aigus. 116 Mais dans les derniers jours, il doit revenir de nouveau, mais une colonne de feu doit revenir de nouveau, pour manifester le Fils de l'homme, voyez-vous, pour montrer la parole, la lumière, les traditions du passé, elles seront anéanties. Rien n'y fera obstacle à cela, la chose se fera, de toute façon. Dieu va vraiment démolir ses dénominations et ses traditions. Quel genre d'esprit va-t-il utiliser pour le faire? Comme ce qu'il avait fait la première fois. Regardez ce qu'il a fait à l'époque d'Élie, à l'époque de Jean. Néhémie prétendait pas dire en vous-même que vous avez Abraham pour père, parce que, de ses pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Voyez? N'allez pas penser, vu que je fais partie de ceci et que je fais partie de cela. Voyez? Dieu, il déchire le voile, voyez-vous, pour montrer qu'il est stère. Voyez? Observez le voile, quand il se déchire, ici, maintenant. Nous voyons ce qu'il en est stère, là. 117 Bon. Et à une époque, si un homme pénétrait à l'intérieur de ce voile, c'était une mort subite. Maintenant c'est Esther de Néhémie pas y pénétrer qui Esther la mort. Amen. Si Néhémie pouvait pas briser ce voile de la tradition, franchir ce mur de la dénomination, pour voir Dieu dans sa puissance, c'est Esther la mort. Alors qu'à une époque, c'était la mort de pénétrer à l'intérieur, maintenant c'est Esther de rester à l'extérieur qui Esther la mort. Tout le propitiatoire Esther là, exposé au regard de tous, n'importe qui peut le voir, le voile Esther déchiré. Gloire à Dieu. Tout le propitiatoire Esther exposé au regard de tous. 118 Comment Dieu a pu faire miséricorde à de vils pécheurs comme nous, quand ils se cachaient. C'était un mystère. Et maintenant, Esther exposée au regard de tous, ou à la vue de tous, révélée par ses paroles. Esther toujours la parole, constamment, laquelle Esther Dieu. Esther la parole qui dévoile la chose. Si ces gens avaient connu la parole de Dieu, le jour où Jésus Esther mort, ils auraient vu le propitiatoire. Ils auraient vu qu'il l'était. 119 Qui était-ce donc? Pourquoi le voile s'est-il il déchiré? Souvenez-vous, d'y pénétrer, c'était la mort. P. Personne Néhémie pouvait le voir. Moïse l'a vu. Sous une forme. C'était un tourbe. C'était le dos d'un homme. Eh bien, le voici. Le dos ensanglanté. Le même homme. Qu'est-ce que c'était? Dieu voulait leur montrer le propitiatoire. Dieu voulait leur montrer qui il était. Alors, le voile du temple, par la main de Dieu, d'en haut, il a été déchiré du haut en bas, ce qui a exposé Dieu au regard de tous. C'était Jésus-Christ, suspendu à la croix, le propitiatoire. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Les gens étaient trop aveugles pour le voir. S'en va maintenant. La chose s'est répétée de nouveau. Leur tradition. Les paroles. Là. Qui est revenu le jour de la Pentecôte. Et qui était sous la forme du Fils de Dieu. Et ils ont formé une organisation. À Nicée. Rome. Et. Bien vite. S'est passé aux méthodistes. Aux baptistes. Aux presbytériens. Aux pentecôtistes, et tout. C'est une tradition organisée, si bien qu'un homme Néhémie sait plus où il en est. Mais, gloire à Dieu, il a fait une promesse, dans les derniers jours, ce qu'il ferait. Il exposerait sa parole au regard de tous, dévoilé devant nous de nouveau, voyez-vous, il les dévoilerait. 121 S'ils avaient seulement connu la parole, ils auraient su qui était Jésus. Si un homme connaissait seulement la parole de Dieu, il saurait en quelle heure nous vivons et ce qui est en train de se passer. Ils refusent simplement d'écouter cette parole. Leur tradition. Si les Juifs ont vu la chose comme ça, c'est à cause de quoi? De quoi? Il semble qu'ils auraient bien pu voir. En fait, parce que la chose avait été déchirée et découverte. Elle avait été déchirée et découverte dans un but. 122 Pourquoi ce réveil qui se poursuit en ce moment? Comment peut-il avoir du succès? Comment peut-il être béni? Peu m'importe le nombre d'imitations qui en sont sorties. Et quoi d'autre? Ça Néhémie. Quand Moïse et Esther sortit, un mélange de gens de toute espèce sont sortis avec lui. Mais Esther fait dans quel but? Esther Jéhovah lui-même qui ôte le voile de sur Dieu, pour montrer la différence entre le vrai et le faux. Lequel? Les méthodistes. Les baptistes. Les presbytériens. Ou qui? Esther dans le vrai? C'est Esther la parole de Dieu qui est Esther vraie. Que toute parole d'homme soit un mensonge. Et que la mienne soit la vérité. Dieu n'a besoin d'aucun interprète. Il en fait lui-même l'interprétation. Il la manifeste. Et c'est ce qui donne l'interprétation. Dieu. Qui se dévoile. Oh. Là là. En plein là. Au milieu de nous. Nous voyons sa grande main qui annonce ces choses. Qui fait ces choses. 123 J'ai quelque chose à dire là-dessus ce soir. Voyez-vous, sur la façon de surveiller la main de Dieu, ce qu'elle fait, comment elle se dévoile. Voyez. 124 Et les gens disent, oh, c'est Esther insensé. C'est Esther du fanatisme, ça. Ça Néhémie vaut rien. C'est Esther insensé. Esther Belzébul. Esther un démon. Esther de la divination. Esther ceci. Voyez-vous? La même chose que ce qu'ils avaient dit de lui. 125 Église. Et si on laisse sortir cette bande? Néhémie pouvez-vous pas voir? Ministre de l'Évangile. En quel temps vous vivez? Néhémie pouvez-vous pas voir l'heure où nous sommes? Dieu, qui montre qui l'Esther, qui met de côté. Regardez, ce voile du temple, il l'est déchiré en deux. Pour qu'il puisse voir Dieu, exposé au regard de tous, et ils étaient trop aveugles pour le voir. Et il a fait la même chose aujourd'hui, en exposant sa parole en plein devant tous, ce qu'il avait promis. Chaque promesse de la parole, en plein devant nous, exposée au regard de tous. 126 Vous savez ce que fait l'Église des nations? La même chose que ce que l'Église juive avait fait, trop aveugle pour le voir, s'estère tout. Le voile sera jeté sur leur cœur, comme à cette époque-là. 127 Remarquez, d'en rester éloigné maintenant, s'estère la mort. Vous devez y pénétrer par ce voile, sinon vous n'y pénétrerez pas. Dieu, qui a pu leur faire miséricorde. Mais souvenez-vous de ce qu'il en était, Dieu manifeste maintenant ce qu'il y avait derrière ce voile. Observez ce qu'il y avait derrière le voile, la parole. Qu'est-ce qu'il voilait? La parole. Qu'est-ce que c'était? Elle est dans l'arche. C'était la parole que ce voile cachait. Voyez? Et Jésus était cette parole. Et il estère cette parole. Et le voile de sa chair la cachait. 128 Et aujourd'hui, le voile de la tradition cache la parole de nouveau. Ils disent, ce n'est pas vrai. Mais c'est bien vrai. Dieu en témoigne. Il fait retentir ce qu'il estère, éclatant comme le soleil, devant tous, et il n'aime le voit pas. Ô Dieu, sois miséricordieux envers nous. Maintenant, remarquez qu'il continue de nous dire que la parole de Dieu est cachée à leur compréhension à cause de leur tradition. Et cette parole est la vie. La vie même de Dieu est donc son propitiatoire. Qu'est-ce qui était placé entre les deux chérubins dans l'arche de l'Alliance? C'était les 10 commandements. Et où Dieu résidait-il? Entre ces deux chérubins avec cette parole. Dieu est dans sa parole. Et il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, et les a révélées à ceux qui, comme des enfants, voudront apprendre. Et si Dieu estère la parole, et que vous recevez cette parole, vous avez reçu le propitiatoire de Dieu, la vie de Dieu. Et je vous ai prouvé à plusieurs reprises par les Écritures que seule une personne qui a le Saint-Esprit pourra comprendre la parole. Elle n'est mise le reste pas cachée. Parce qu'il faut l'Esprit de Christ pour comprendre les choses de Dieu. Et vous n'y pouvez pas avoir l'Esprit de Christ sans avoir le même esprit, la même vie que Christ. Maintenant, ramenons nos pensées sur ce que nous avons lu aujourd'hui pour notre texte dans Marc 4 où Jésus raconte la parabole du Fils de l'homme qui a semé des semences qu'il nous dit être la parole de Dieu. Et il nous dit que la semence, ce sont les enfants, donc la semence est porteuse de la vie. Et concernant la vie, surtout la vie qui est dans la parole de Dieu qui est la semence que le semeur est allé semer, nous devons comprendre que lorsque nous voyons que cette vie commence à se manifester, elle ne ressemble pas encore à la semence originelle qui a été semée. Donc, elle doit traverser différentes époques et différentes saisons pendant qu'elle change de forme et se manifeste. Mais la première étape de la vie que nous voyons est la tige. Quand la lumière frappe la semence et qu'elle commence à se développer en toutes sortes de plantes, cette première manifestation de la vie se manifeste dans la partie centrale de la plante qui se trouve dans le tronc ou la tige dans laquelle la vie de la semence commence à monter. Et pendant que la vie est à l'intérieur, la plante est verte prouvant ainsi qu'elle est pleine de vie. Maintenant, avant qu'elle n'ait mis sous manifeste, la vie jaillit de la semence dans les racines. Et si elle n'a pas de racines, elle n'est mis survivra pas. J'espère que vous pouvez voir l'application spirituelle de ce que je dis ici. Alors que la vie dans cette semence commence à se manifester davantage, à travers la tige, alors qu'elle s'avance plus en avant dans la maturité, elle commence à faire pousser des pousses de cette tige centrale. Il importe peu que ses pousses soient des feuilles ou des fleurs. Ou peut-être, comme nous le voyons dans le maïs ou le blé, les pics commencent à pousser. Au début, tout ce que nous voyons dans cet épiester, le gland ou la partie qui ressemble presque aux feuilles qui entourent la partie externe de l'épi. Ensuite, au fur et à mesure que la vie évolue dans la plante, nous voyons la vie entrer dans la balle qui ester à l'intérieur du gland. Et cette écale, coque, a une forme, mais elle n'est mis faite que protéger la vie des semences qui grandissent à l'intérieur. Elle n'ester là que pour protéger la vie des semences. Puis finalement la vie s'avance plus avant dans la manifestation dans ces petites semences qui sont produites dans l'épi qui ressemble à la semence originelle qui a été plantée en terre. S'ester ce que nous appelons le maïs lui-même. Maintenant, lorsque la vie passe de la semence aux racines et à la tige, avant qu'elle n'ait mis puisse le faire, la coquille extérieure de la semence doit pourrir et mourir, sinon la vie n'est mise peut être libérée de l'intérieur. Et Jésus nous a dit que la même chose doit se produire pour que la vie de Dieu entre dans l'église du Dieu vivant. Jean 12.23 Jésus leur répondit, le rester venu où le Fils de l'homme doit être glorifié. 24 en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui ester tombé en Tarnémi meurt, il reste seul, mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus nous a dit dans Jean 6.63 que la parole de Dieu ester vit, et que l'Esprit de Dieu vivifie cette vie en nous. Si ester l'Esprit qui vivifie, la chair n'est mise sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans Jean 1.1 nous lisons, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, moins d'eux car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, maintenant, la vie ester dans le Père avant de pouvoir entrer dans le Fils. Et tant qu'elle ester dans le Père, elle ester sous forme de semence. Jean 5.26, car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi l'a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et nous savons que la forme de vie sous laquelle Dieu fait naître sa propre vie ester dans sa parole. L'apôtre Paul a appelé cela la parole de vie dans Philippiens 2.16 portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier, au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et encore dans Actes 5.20 l'apôtre Pierre a dit, allez, tenez-vous dans le temple, et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Et c'est ester Pierre qui nous a enseigné que notre nouvelle naissance vient par la parole de Dieu, la parole étant activée dans notre être. Et Pierre 1.23, puisque vous avez été régénérés, vous êtes nés de nouveau, qu'agivez, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu, vivante et permanente. Maintenant, remarquez qu'il nous a dit qu'il y a des semences corruptibles et qu'il y a une semence incorruptible. Et il nous dit que la semence incorruptible ester la parole de Dieu, car toutes les autres semences ont un commencement et une fin de vie, mais il n'y a qu'une seule source de la vie éternelle, car il n'y a qu'un seul éternel, et s'ester la propre vie de Dieu. Par conséquent, quand vous recevez la vie éternelle, s'ester à ce moment-là que la vie même de Dieu entre en vous et vous active à la vie qu'il a ordonnée pour vous avant même qu'il amène le monde à l'existence. Parce que vous deviez être une partie de Dieu pour avoir vie éternelle. En fait, nous voyons tout le plan de Dieu dans Éphésiens chapitre 1. Ouvrons donc nos Bibles dans Éphésiens chapitre 1 et commençons à lire au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, ici, On nous dit que non seulement Dieu Esther le Père de Jésus-Christ, mais qu'il Esther aussi le Dieu de Jésus-Christ. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, maintenant, dans le verset suivant, nous voyons que nous étions réellement en lui avant les fondements du monde. Car en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, ou dans sa présence. Puis, à cause de son grand amour pour les siens, il a mis en ordre son grand plan pour ses enfants. 5. Nous ayant prédestinés dans son amour. Maintenant, notez que l'expression nous ayant prédestinés Esther au passé. C'est Esther ce qu'il a fait alors que nous étions encore dans sa pensée avant même qu'il n'ait mis forme les mondes. Puis quand Dieu a formé les mondes, avec nous dans sa pensée, il les a formés pour que nous puissions en jouir. Dieu a existé pendant une éternité avant même de former les mondes, donc il ne l'a pas fait pour lui-même, il n'en avait pas besoin, mais il l'a fait pour vous et moi afin que nous puissions jouir des montagnes et de la mer, des vallées et des rivières, etc. C'est Esther pourquoi nous lisons, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Ainsi, c'était selon son très bon plaisir de nous prédestiner à l'adoption des enfants par Jésus-Christ. Maintenant, dans l'Ancien Testament quand un fils naissait, il était élevé par des tuteurs et des gouverneurs jusqu'au temps fixé par le Père. Et quand l'enfant, le premier-né se révélait capable et se souciait de ce que son père voulait, en d'autres termes, un fils obéissant, le père l'emmenait, et devant tout le monde, il adopta son fils premier-né. Alors ce fils recevait 50% de tout ce que le père possédait. Les autres enfants n'en recevaient une portion qu'à la mort du père. Mais aussi longtemps que le père vivait, les autres nés n'y recevaient aucun héritage. Et nous avons un père qui Esther le sans les rois immortels et qui Néhémie peut mourir. Il était donc opportun, dans le plan du père, de permettre à son fils Jésus de mourir afin que nous puissions recevoir son héritage. Et c'est Esther ce que l'apôtre Paul dit ici. 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, si c'est la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. C'est en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, huile que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Maintenant, pour en revenir à la vie de la semence, nous voyons aussi dans Jean 6.68 Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et donc nous voyons que la parole Esther une semence et que la vie dans cette semence Esther la vie de Dieu, la vie éternelle. Jean 5.24 en vérité, je vous le dis, celui qui écoute, celui qui comprend ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a fait écho de la vie éternelle et Néhémie vient point en jugement, mais il Esther passé de la mort à la vie. Et donc les attributs d'une personne ordonnée ou prédestinée à la vie de Dieu, Esther qu'ils croiront. Acte 13.48 Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Jean 6.63 C'était à l'esprit qui vivifie, la chair Néhémie sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Le chef-d'œuvre 64-0705-118 Mais au nom Néhémie peut pas cacher une semence fécondée, elle doit percer, pourquoi? Parce que le grand sculpteur Esther à l'œuvre. Il va construire de nouveau. Alors il... La semence Esther tombée, la parole. 119 Quand nous voyons Saint Paul, Pierre, Jacques, Jean, tous ceux qui ont écrit la parole. Ils ont écrit, et la parole qu'ils ont écrite a pris vie, a vécu, elle a vécu. Et nous voyons, quand elle Esther arrivait à maturité, Jean s'est mis à écrire les épîtres. Là, il a été expulsé sur l'île de Patmos, après avoir été brûlé dans de l'huile pendant 24 heures. Mais la parole doit sortir. Elle doit être écrite. Ils n'ont pas réussi à faire sortir le Saint-Esprit de Jean en faisant bouillir celui-ci dans l'huile. Alors Jean en est ressorti. Son travail n'était pas terminé. Il est mort de mort naturelle. La semence est porteuse de la vie. I Corinthiens 13.11 Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Maintenant, nous avons noté que la semence dont Jésus parlait qui devait tomber en terre, était la vie même qui était en lui, et qui a commencé à se manifester le jour de la Pentecôte. Cette semence qui a été semée au premier âge est parvenue à un corps complet dans ce dernier âge. Une fois plantée, la semence produira une récolte qui est à la ressemblance que la semence qui était tombée en terre. Et si Christ était la parole qui est la semence qui a été ensevelie dans la mort et qui en est sortie quand Dieu a ressuscité son Fils de la tombe, puis le jour de la Pentecôte, cette même vie a commencé à grandir et à se manifester dans l'Église. Si c'est la semence de la parole qui a été ensevelie, alors cette même vie qui était dans cette parole doit aussi reproduire le même germe de vie dans l'Église, au temps de la récolte. Et puisque nous savons que la parole a été faite chair, et que nous avons contemplé sa gloire, et que la gloire que nous avons contemplée était la doxa de Dieu qui est à son opinion, son évaluation et le jugement de Dieu sur la terre, puis, comme l'a dit l'apôtre Paul, il doit revenir et cette fois-ci pour être glorifié dans son Église. Esther 2 Thessaloniciens et le verset 10. Et cette glorification sera à nouveau la parole dans des êtres humains, des fils de Dieu dont l'apôtre Paul nous dit, que cette pensée qui était en Christ soit en vous. Nous voyons donc qu'il y a un peuple ordonné qui apprendra à s'écarter du chemin et à laisser faire Dieu. Il y a des années, j'ai prêché une mini-série que nous avons intitulée Le Jardin de votre pensée, et dans cette mini-série, nous nous sommes concentrés sur la pensée comme d'un jardin, car nos pensées sont remplies de nombreuses semences qui sont des pensées, dont certaines sont bonnes ou justes, et d'autres sont mauvaises. Et nous avons constaté que, comme une semence est porteuse de vie, nos pensées aussi sont porteuses d'actions qui créent une atmosphère, et de cette atmosphère se produisent des réactions. Nous avons montré comment, comme pour tout jardin, nous devons avoir un plan si nous voulons récolter ou moissonner le résultat que nous souhaitons de notre jardin. Car vous n'y pouvez pas laisser pousser autre chose dans votre jardin que ce que vous désirez comme récolte, où les autres semences germeront aussi, et ils rivaliseront avec vos semences plantées pour la vie. Comme vous le savez dans n'importe quel jardin, si les mauvaises herbes poussent, elles rivalisent avec les bonnes cultures, non seulement pour la place, mais aussi pour les nutriments dans le sol. Les mauvaises herbes, si elles n'y sont pas contrôlées sous contrôle, envahiront bien des fois et étoufferont les bonnes cultures, ou les cultures pour lesquelles nous désirons une récolte, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Et vous devez savoir par expérience que les mauvaises herbes sont plus abondantes et poussent plus vite qu'une récolte. Maintenant, Jésus a raconté la parabole du semeur plusieurs fois. Matthieu 13.3 Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, et il dit, quatre un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent, et la mangèrent. 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt, parce qu'elle n'y trouva pas un sol profond. 6. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. 7. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent, et les touffèrent. 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Matthieu 13.18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et n'aime la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, cet homme estère celui qui a reçu la semence le long du chemin. 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, s'estère celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, s'estère celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, s'estère celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc, afin d'éliminer les mauvaises semences, ou du moins les effets des mauvaises semences, nous devons apprendre à cultiver les jardins de notre pensée, afin de nous attendre à une meilleure récolte de la plantation souhaitée. Maintenant, nous savons tous que le Seigneur nous appelle. Sa plantation est le type de plante à laquelle il nous compare. Son terre est bainte de la justice, comme nous le voyons dans Ésaïe 61.3b et comme nous le chantons aussi, afin qu'on les appelle des terres bainte de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Et comme tout autre jardin, notre jardin est planté selon les objectifs de celui-ci qui le plante, et pour la gloire ou un changement qui améliore la condition du planteur. Si une personne veut récolter certains types d'aliments, elle doit planter les semences de ce qu'elle veut récolter. Vous n'y plantez pas une plante adulte. Non. Cela s'appelle la transplantation. Mais ce que nous plantons dans le sol, ce sont des semences qui, lorsqu'elles mûriront, reproduiront la plante dans les moindres détails. Étant donné que la semence contient la vie de la plante, alors elle porte aussi le code génétique afin de reproduire cette plante dans les moindres détails. Donc, vous voyez, le jardin est planté avec une récolte souhaitée à l'esprit, et il revient à celui qui le plante de le surveiller jusqu'à la récolte. Et donc, en plus de n'aimer pas faire pousser les mauvaises semences, nous devons aussi nous assurer que nous arrosons et fertilisons le jardin. Et puisque nous sommes la plantation du Seigneur, il fera sa part quant à l'arrosage et à la fertilisation de son jardin. Et ce jardin, le jardin de nos pensées est une plantation de l'Éternel, des terres bainte de la justice ou n'importe quelle métaphore que nous pouvons utiliser pour typifier l'épouse du Christ. Maintenant, pour revenir à l'écriture que nous lisons comme texte, ouvrons à nouveau nos Bibles dans 1 Corinthiens 13.11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Maintenant, ici, nous voyons Paul parler d'un certain moment de la vie où nous sommes à un certain niveau de notre maturité. Il commence par dire, lorsque j'étais enfant, et en utilisant le mot lorsque nous pouvons voir que Paul pensait à une période spécifique ou juste une période passée qui faisait partie de son cycle ou processus de croissance. Lorsque j'étais enfant, voyez-vous, et non seulement nous examinons cette période, mais maintenant que nous nous concentrons sur cette période, Il veut nous expliquer davantage certains attributs associés à cette période de sa vie. Et donc il continue en disant, pendant cette période lorsque j'étais enfant, il y avait certains attributs qui ont prédominé ma vie. Je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, parce qu'il dit, je raisonnais comme un enfant. Maintenant, ce que nous pouvons conclure de la déclaration de Polici, c'est-à-dire que la raison pour laquelle nous parlons comme un enfant, c'est-à-dire parce que notre compréhension est-à-dire celle d'un enfant, et c'est-à-dire parce que la manière dont nous pensons n'est-à-dire qu'au stade de ce qu'est-à-dire un enfant. Et donc, notre parler n'est-à-dire que le reflet de notre pensée, qui est-à-dire une manifestation extérieure de notre état d'esprit. Remarquez comment frère Branham a fait allusion à cela en disant qu'un bébé obtient ce qu'il veut en pleurant. Vous n'aimez pouvez pas vous attendre à ce qu'un bébé fasse tinter une clochette, ou quelque chose de ce genre. Il n'a pas encore les attributs fonctionnels pour le faire. Ce n'est-à-dire pas que le bébé Naomi possède pas la génétique mentale. Mais ses attributs et ses caractéristiques n'ont pas encore atteint, par l'exercice, la force et la maturité. Et donc nous découvrons que frère Branham nous montre la simplicité de la croissance qu'il typifie aussi avec notre maturité spirituelle. Et Jésus nous a dit la même chose dans Luc 6. 4-5 L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est-à-dire de l'abondance du cœur que la bouche parle. Notez qu'il nous dit que c'est-à-dire de l'abondance ou du trop-plein du cœur, qui est-à-dire la compréhension, que la bouche parle. Donc, ce que vous dites dépend de ce que vous savez. Je n'ai émis pour en aucun cas m'attendre à ce que l'un des enfants assis ici se lève et nous parle de la théorie de la relativité d'Einstein. Pas plus que je n'ai émis pourrait m'attendre à ce qu'il se lève et nous parle de la divinité. Ils peuvent peut-être nous dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu unique a eu un fils, et c'est-à-dire tout ce que je m'attendrais de leur part à ce stade de leur croissance spirituelle. Mais si frère Branham devait se lever que c'était tout ce qu'il pouvait nous dire, alors nous n'aurions aucune aspiration plus élevée à atteindre. Maintenant, cela ne veut pas dire que ce serait ok de nous contenter, de là où nous sommes. Parce que dès l'instant où vous vous arrêtez de faire des progrès, c'est-à-dire à ce moment-là que vous commencez à mourir. Dieu Naomi s'attend pas non plus à ce que nous dépassions son prophète. Mais comme l'a dit frère Branham, et je vais paraphraser, vous êtes maintenant ici et je suis ici. Un jour, vous aussi, vous serez ici quant à votre compréhension. Jésus nous a dit la même chose dans Luc 6.40 Le disciple n'est-à-dire pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et donc nous examinons le fait que nos paroles Naomi sont qu'un réflecteur ou un reflet du stade où nous sommes dans notre croissance. Maintenant, la façon dont grandit un enfant, c'est-à-dire quand il commence à dire les mots qu'il entend de ses parents. Parfois, cela peut choquer certains parents lorsqu'ils entendent des gros mots ou des mots vulgaires sortir de la bouche de leur bébé comme ses premiers mots. Mais le bébé Naomi peut dire que des mots qu'il a entendus. Un bébé, comme toute autre personne, est-ce à limiter aux mots qu'il entend des autres. C'est-à-dire pourquoi nous devons écouter régulièrement la voix de Dieu. Et au moment où un bébé commence à formuler ses petites pensées au point où il commence à dire des mots intelligibles, en fonction de ce qu'il a entendu, ainsi, nos esprits aussi, spirituellement parlant, afin de grandir dans la pleine stature où le reflet de notre Père Céleste, doivent commencer à formuler nos pensées en fonction des mêmes mots qu'il nous a dit. Dans Jean 5.19 30 Jésus a dit le fils Naomi peut rien faire de lui-même, il Naomi fait que ce qu'il va faire au Père. Maintenant, je veux que vous remarquiez que Jésus, comme tout enfant, n'avait pas ses propres mots. Nous avons tous commencé à converser en imitant les mots que nous avons entendus de nos pères et de nos mères, et Jésus n'était pas différent. Jean 7.16-18 Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est-elle pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. 17 Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est-elle de Dieu, ou si je parle de mon chef. 18 Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est-elle vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Et pour savoir les genres de mots que les parents disent à la maison, il suffit d'écouter leurs petits. Si les enfants parlent de Jésus et des choses de Dieu, alors vous saurez ce qui se passe dans cette maison. Mais si l'enfant dit des jurons et utilise des mots vulgaires, alors vous saurez aussi quelle sorte d'atmosphère il y a dans cette maison. C'est-à-dire par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et nous savons que les fruits sont ce qu'ils ont appris. C'est-à-dire l'enseignement de la saison dans laquelle ils vivent. Et donc nous voyons que Jésus comme notre exemple, a dit, « Je n'ai mis pour rien faire de moi-même. Ce que je dis, ce que je fais, cela m'a été enseigné par mon Père. Même la doctrine que j'apporte n'est-elle pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Jésus a dit aux pharisiens, dans Jean 8.38, « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Et donc si nous devons grandir à l'image de notre Père, nous devons d'abord le voir, puis nous devons reconnaître ce qu'il est en train de faire, afin que nous puissions ressembler à cette image. » Jean 3.1-3 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde n'a aimé nous connaît pas, c'est-à-dire qu'il n'a aimé l'a pas connu. De bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 3 Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. I Corinthiens 13.12 Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face, aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Or, cette connaissance vient du fait de voir et d'expérimenter la puissance et la présence de Dieu. Et ce dont Paul parle ici fait allusion à ce qu'il a dit au verset 9. Lisons donc le verset 9 car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, 10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 11 Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. 12 Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face, aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, je pense que nous serions tous d'accord, que Jésus était notre frère aîné, et il a donné l'exemple que nous devons suivre pour notre croissance dans la stature de fils et de fille de Dieu. Il était notre modèle et notre absolu pour la vie que nous désirons. Romains 1.29-30 Maintenant, Weymouth le traduit ainsi, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à porter la ressemblance de son fils, afin qu'il puisse être l'aîné d'une vaste famille de frères. Par conséquent, nous pouvons voir que Jésus était le modèle que Dieu, notre Père, nous a présenté. Et Paul nous dit lui-même que nous ne devons pas être pour toujours comme des enfants dans nos pensées. Il poursuivit en disant, I Corinthiens 13.11 Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Maintenant, je voudrais poser à certains des plus jeunes parmi nous cette question, pourquoi une personne ferait-elle disparaître les choses enfantines quand elle est devenue un homme? Parce que son état d'esprit Néhémie considère plus ces choses comme importantes pour lui. Et nous avons déjà vu la réponse que Paul nous a donnée. Parce que quand nous sommes enfants, nous pensons et comprenons comme un enfant, et donc nous nous accrochons aussi aux choses enfantines. Mais quand nous grandissons dans notre pensée et notre compréhension, alors ces choses auxquelles nous tenions enfants n'ont plus le même impact sur nous. Par conséquent, nous sommes passés de cette étape de la vie à une autre comme nous le voyons dans Malachie 3.16-18. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui n'est aimé le sert pas. Pierre était un homme vraiment pratique et il nous dit que quand une personne a souffert dans son corps, elle n'a plus le désir de pécher, parce que ses désirs changent avec la croissance de l'esprit. Et Pierre 4.1 Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Et c'est vrai. La souffrance dans le corps n'est qu'un processus qui nous aide à tourner nos véritables affections dans la bonne direction. Et ce que nous examinons ici, ce soir, c'est le processus de maturation. Jean 6.44-45 Nul ennemi peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ennemi l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. 45 Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Jean 14.26 Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 2 Timothée 2.2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Hébreux 5.12 Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Hippia 2.7 L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, février 2020. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.